Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. La Chine est en passe de devenir la première puissance mondiale et l'ironie veut que nous recevions aujourd'hui l'un des artistes les plus puissants qui soit, qu'il est chinois, mais exilé loin de sa terre natale. Il s'appelle Ai Weiwei, c'est un artiste au sens plein du terme, c'est-à-dire un homme pour qui l'art et la vie sont indissociablement liés. Ce qu'il fait, ce qu'il dit et aujourd'hui ce qu'il raconte, puisque nous le recevons à l'occasion de la parution de ses mémoires, participe d'un seul et même élan. Tout est art chez Ai Weiwei, et sans doute jusqu'à une émission de radio qui nous vaut certainement d'être attentivement écoutée au moment où je vous parle par un pouvoir chinois qui n'a jamais réussi à le soumettre ou à lui faire plier les genoux. C'est un livre d'une importance capitale parce qu'il ne s'agit pas tant de la mémoire d'un homme passionnant et follement créatif que de mémoire tout court, celle d'un monde qui se pose comme le miroir inversé d'une autre. Suivez-nous, l'heure qui vient s'annonce passionnante et pop hop hop, c'est parti.
France Inter, pop hop hop. Antoine de Paune.
Bonjour Ai Weiwei et Qin Yanhao, c'est-à-dire bonne année, ou du moins c'est ce que j'ai essayé de dire, hein, parce qu'il y a quelques jours, nous fêtions le nouvel an chinois et l'entrée dans l'année du tigre d'eau. Bienvenue donc dans Pop Pop Pop, une émission de radio pour parler de vos mémoires. Peut-elle s'inscrire dans votre démarche artistique, comme je le soutenais à l'instant ?
Of course, I consider everything
oui,
I do as one work.
Comme une grande œuvre d'art.
So I do writing, I do filming,
j'écris,
I do
films, je parle. Tout ce que je fais fait partie de mon œuvre.
Ai Weiwei, vous venez nous parler aujourd'hui de votre livre « Mille ans de joie et de peine », sorti le 2 février en France chez Buchet-Chastel. Ce sont à la fois vos mémoires que vous racontez, une évocation de votre père, Ai King, et une histoire de la Chine contemporaine et de votre longue marche, si vous me passez l'expression, en tant qu'artiste. On va en parler en détail avec Charline Roux qui nous rejoindra, mais d'abord faisons un peu mieux connaissance avec vous. Vous êtes aujourd'hui un des artistes les plus connus au monde, et que ce soit comme sculpteur, comme performeur, blogueur, photographe, architecte ou réalisateur, vos œuvres sont toujours éminemment politiques. Ça veut dire quoi? Que l'art et la politique sont absolument indissociables à vos yeux?
I was born in a very political time.
Vous savez, moi, je suis né à une époque extrêmement politique, dans un lieu très politique qu'était la Chine. Et dès le début, Mao nous a enseigné, si vous voulez, que tout est politique, que la politique était la chose la plus importante qui soit, et que si l'on comprend le politique, eh bien, on comprend mieux le monde. Et donc, c'est ce qu'on nous a enseigné. Mais en réalité, certes, il faut quand même comprendre ce qui se passe dans le monde, mais ce qui est assez ironique, c'est que, sur le plan politique, la Chine est un pays assez arriéré, puisqu'il est un pays à parti unique et qui a la main mise sur plus d'un milliard d'habitants, et le Parti communiste chinois a pris une décision définitive de ne jamais changer. C'est un peu comme les anciens empereurs, finalement, qui se disaient qu'ils seraient là éternellement pour des centaines, des milliers d'années, et ils se disent que c'est ce qu'il y a de mieux pour le peuple chinois.
Ai Weiwei, performeur, sculpteur, vidéaste, écrivain, architecte, réalisateur, vous donnez ce sentiment d'être, vous savez, comme un de ces artistes de la Renaissance qui s'exprimait sur tous les supports possibles. C'est à ça que doit ressembler un artiste aujourd'hui ?
I think art should always function as an essential part
of the humanity. Partie prenante de l'humanité, c'est-à-dire que à l'époque moderne, c'est vrai que l'art s'est un petit peu dissocié, détaché, dirais-je, de la réalité, du monde. Mais c'est-à-dire qu'il y a l'art pour l'art, ça existe. Mais moi, je n'y crois pas. Personnellement, je pense que l'art doit faire partie de la philosophie, du jugement moral. L'art doit s'inscrire dans une démarche non seulement esthétique, mais également dans le jugement en général. Et donc, il y a là un lien évident avec les conditions politiques.
Vos engagements vous ont coûté cher, hein, puisque vous vivez en exil aujourd'hui et vous avez même été emprisonné en Chine, mais votre voix est de plus en plus entendue. Et en 2015, vous avez reçu le prix ambassadeur de la conscience d'Amnesty International, conjointement avec une autre artiste qui représente la liberté et l'insoumission, John Baez. Et il m'a semblé juste d'écouter la grande dame de la protest song avec vous pour commencer cette émission. Le point levé, majeur tendu. Here's to you. Nous écoutions « Here's to you » de John Baez, écrit par Ennio Morricone, et en compagnie de Ai Weiwei, artiste chinois et figure internationale de la résistance, connaisseur, fin connaisseur de la tradition, mais surtout inventeur de nouvelles formes. Alors un bon exemple de ce rapport très provocateur et respectueux en même temps que vous avez avec les traditions, c'est une de vos œuvres qui est un vase antique en céramique, sans doute fabriqué selon une méthode ancestrale, et sur lequel vous avez écrit le logo de Coca-Cola. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, Ai Weiwei ?
First, I think we are living in a very complicated
nous vivons
world,
dans une époque extrêmement compliquée et la Chine, en l'espace de quelques décennies, est passée d'un État, disons, autoritaire mais communiste pour devenir un État toujours autoritaire mais capitaliste. Ce qui veut dire que la Chine fonctionne, disons, avec des idéologies parallèles. On choisit un camp qui est celui du capitalisme, mais autoritaire, ce qui l'arrange, tout en évitant toutes les complexités qui vont avec le vrai capitalisme. Alors, la culture américaine symbolisée par le Coca-Cola se retrouve partout dans le monde, y compris donc en Chine. Mais en Chine, vous avez la dynastie Han, des vases de cette dynastie qui symbolise évidemment la culture traditionnelle chinoise. On se dit que cette culture est très profonde, très ancienne. Mais quand les deux se réunissent, vous avez finalement une union qui se fait assez bien. Vous avez les écourbures du logo Coca-Cola s'inscrivent parfaitement sur la dynastie Han.
Alors, c'est un geste évidemment warholien d'associer avec ironie l'antique et la vulgarité consumériste. Est-ce que c'est cette sorte d'humour qui vous a d'abord attiré vers un artiste comme Andy Warhol, par exemple ?
Well, living in today, you have to have humor.
Vous savez, aujourd'hui, il faut de l'humour pour
humor
vivre.
Is a position l'humour,
c'est ce qui vous permet de dépasser l'immédiat, de ne pas être trop rationnel, de pouvoir prendre un peu de distance par rapport à une situation qui vous dépasse.
Le rationalisme,
l'intelligence ne suffisent pas à gérer la réalité. Il faut emprunter au passé, il faut se relier à d'autres choses. chose et voir des choses qui n'ont apparemment aucun rapport avec la situation actuelle. Ça peut paraître incongru, mais ça vous permet de voir différemment.
Vous êtes un grand admirateur de Marcel Duchamp, qui exposait un urinoir dans une galerie d'art, mais aussi des surréalistes et de Dada. Et on ne peut pas s'empêcher, là encore, de remarquer que ce sont des mouvements dans lesquels l'humour, l'ironie ont une importance capitale. Il y a peu de raisons de se réjouir par les temps qui courent, comme vous le soulignez à l'instant, Ai Weiwei. Qu'est-ce qui vous amuse ?
Well, Duchamp is a unique.
Vous savez, Marcel Duchamp effectivement était un personnage assez exceptionnel, qui était un mouvement à lui tout seul, mais qui a réussi à libérer entièrement l'art du simple artisanat pour en faire une œuvre destinée à un état d'esprit. C'est-à-dire, c'est une démarche très nouvelle qui, en tout cas, a eu effectivement une forte influence sur mon propre travail. Alors de nos jours, dans la situation politique actuelle, on peut se dire que le monde a peut-être pu développer son imagination, mais bien souvent, on ne comprend pas tout ce qui se passe parce que les choses évoluent tellement rapidement qu'elles dépassent finalement notre imagination. Et donc, il est toujours utile d'avoir, accès au surréalisme et le dadaïsme est une façon de nous aider à penser différemment le monde. C'est-à-dire qu'on se sert de notre intelligence, de nos connaissances, pour essayer de nous y retrouver dans le monde contemporain.
Ai Weiwei, une de vos œuvres les plus célèbres en Europe s'appelle Sunflower Seeds. Elle a été exposée à la Tate Modern Gallery de Londres en 2010-2011. Il s'agit de millions de fausses graines de tournesol en porcelaine fabriquées à la main par 1600 artisans chinois. Et l'inspiration est une phrase de Mao. Pouvez-vous nous l'expliquer, s'il vous plaît ?
Sunflower seeds is the work I presented in Tate Modern.
Tournesol, les sunflower seeds, c'est effectivement une œuvre que j'ai présentée à la Tate Modern en 2010. Alors, c'est une installation qui a fait intervenir l'artisanat de quelques 1600 artisans chinois qui viennent de la région de Tianjin, qui est connue pour la fabrique de porcelaine depuis justement des milliers d'années. Donc ces artisans ont travaillé ensemble, ça leur a pris pratiquement deux ans à fabriquer ces quelques 100 millions de graines de tournesol en porcelaine décorée et donc dans cette installation à la Tate Modern. Alors, ce sont des toutes petites choses, ne font pas plus d'un centimètre chacune, mais alors, chacune de ces graines en porcelaine a été peinte à la main et pour en faire une seule, il faut la passer au four, il fallait une vingtaine de procédures assez complexes. Imaginez cela. Alors, à une telle échelle, c'est comme un grand vase de porcelaine, mais en miniature, multiplié par des centaines de milliers. Alors, pourquoi tant de graines et pourquoi cette installation à la Tate? Eh bien, je vais vous le dire, c'est que si on se retourne sur l'histoire, on voit que finalement, l'homme a toujours constitué des œuvres qui faisaient intervenir, une main-d'œuvre importante. C'est ainsi qu'on arrive à produire des œuvres qui seraient impensables. Vous savez que en Chine, pour construire toute l'infrastructure, les palais, il fallait des millions de travailleurs. Ces travailleurs aujourd'hui sont devenus la sweatshop du monde, l'atelier de la planète. Et ça, c'est quelque chose qui existe depuis des siècles. Alors, on se trouve dans une situation un peu nouvelle, c'est-à-dire que on ne peut pas refaire le passé. Mais enfin, on a un des États les plus puissants du monde, quand même.
Et la référence à la phrase du président Mao pour cette œuvre en particulier.
During the Cultural Revolution,
pendant la révolution culturelle, Mao a été considéré symboliquement comme le soleil. Alors le tournesol, c'est la fleur du soleil, et donc toutes ces graines, c'était comme le peuple chinois qui se tournait vers le soleil, vers Mao, qui était le dieu soleil en quelque sorte. Et donc C'était une forme de nationalisme exacerbé, où le dirigeant était un personnage iconique, emblématique. C'était presque un culte, à la limite religieux, plus qu'autre chose.
Ai Weiwei, depuis votre arrivée en Europe en 2015, une grande partie de votre activité, de votre production a porté sur la crise des migrants et des réfugiés, avec notamment votre premier long-métrage documentaire qui avait pour titre « Human Flow ».
Being a refugee is much more than a political status. It is the most pervasive kind of cruelty that can be exercised against a human being. You are forcibly robbing this human being of all aspects that would make human life not just tolerable but meaningful in many ways.
The more immune you are to people's suffering, that's very, very dangerous. It's critical for us to maintain this humanity.
Ça, c'est extrait donc de Human Flow, le film sorti en 2015. C'est votre rôle en Europe aujourd'hui de réveiller les consciences sur ces sujets, parce que vous êtes un exilé vous-même.
Well, as an exiled person,
effectivement, je suis un exilé et à ce titre, je pense mieux comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui se trouve chassé de ses propres terres, de sa propre culture, de sa propre langue et qui se retrouve dans des terres complètement inconnues, souvent dangereuses, des traversées qui sont où ils risquent leur vie, des gens qui se retrouvent jetés à littéralement, et des gens qui ont perdu de nombreux parents dans ces traversées tragiques. Et moi qui viens d'une société communiste, j'étais particulièrement choqué d'apprendre. Je me suis rendu à l'île grecque de Lesbos, qui fait office de frontière entre la Grèce et la Turquie, et j'ai vu la façon dont ces réfugiés arrivaient en Europe, la façon dont ils avaient été négligés et rejetés, justement. Il y en a beaucoup qui ont trouvé la mort dans ces traversées. Donc j'ai décidé d'en faire un film, un documentaire pour parler de cette véritable tragédie humaine. Vous savez, pour moi, c'était également l'occasion d'apprendre quelque chose, d'apprendre ce qui se passait au niveau de la scène politique internationale, également d'apprendre plus sur le Moyen-Orient, l'histoire de l'Occident, la façon dont l'Occident a été amené à évoluer. Donc c'est également mon propre processus d'apprentissage à travers ce documentaire, mais en même temps, bien sûr, c'était un documentaire sur la crise des réfugiés. Nous avons parcouru quelque 23 pays et les 40 camps de réfugiés les plus importants d'Europe. À titre personnel, j'ai interviewé plus de 600 réfugiés et d'ONG, d'experts qui ont parlé de cette question.
Ai Weiwei, on va maintenant parler plus en détail de votre livre avec Charline Roux qui va nous rejoindre et de la Chine et de son histoire récente. Mais avant cela, peut-être parce qu'à votre place j'aurai le mal du pays ou peut-être parce qu'Allen Ginsberg, qui fut l'un de vos amis, apparaît dans le fameux clip de cette chanson de Bob Dylan. Je vous propose d'écouter ensemble Subterranean Homesick Blues.
Mixing up the medicine, I'm on a pavement, thinking about the government. A man in a trench coat, badge out, laid off, says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway, looking for a new friend. A man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills, you only got 10. Maggie comes Fleetfoot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the men say they must bust an early man, orders from the DA. Look out, kid, don't matter what you did, but walk on your tiptoes, don't tie no bows. Better stay away from those that carry around a fire hose. Keep a clean nose, wash the clean clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Sick, get well, hang around the inkwell, hang bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get bought, get back, ride rail, get jail, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six
looking for a new fool. Don't follow leaders or watch a parking meter. Oh, get born, keep warm, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Try to be success, please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't live. 20 years of schooling and they put you on a day shift. Look out, kids, they keep it all hid. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals and try to forge a scandal. Don't want to be a bum, you better chew gum. The pump don't work cause the vandals took the handle.
Et bonjour Charline.
Bonjour.
Charline, je vous présente Al Weiwei. Charline, en Enchantée. Astrologie chinoise, Al Weiwei est coq en feu. Je suis serpent d'eau et vous êtes serpent de feu Picard. Avec lui et avec vous, nous allons donc parler de son livre monumental, Mille ans de joie et de peine, sorti le 2 février chez Buchet-Chastel. Charline, résumez-nous Mille ans en quelques secondes.
Ça va être compliqué. Un livre de mémoire, certes, vous n'avez pas mille ans, mais des mémoires indissociables de l'histoire de la Chine, de Mao à aujourd'hui, de votre jeunesse dans les camps de travail du goulag chinois à votre exil en Europe. Un petit traité sur la puissance révolutionnaire de l'art. Certes, on nous a beaucoup répété qu'on ne juge pas un livre à sa couverture, mais comme celle-ci est l'une de vos œuvres, Ai Weiwei, j'aimerais qu'on s'y attarde. Est-ce que je peux vous demander de la décrire et ce qu'elle signifie ?
Well, when you have a book, you need a car.
Quand vous avez un livre, il faut bien qu'il ait une couverture. Et souvent, sur la couverture, si je ne la fais pas moi-même, je vais me retrouver avec ma photo. Je déteste les livres avec une photo de l'auteur dessus. Donc, en tant qu'artiste, ce que j'essaie de faire, c'est de dire, voilà, je vais faire un dessin pour illustrer un petit peu le livre. En fait, souvent, mes œuvres se retrouvent illustrées de cette façon. Je représente des animaux mystiques, sur les océans, la montagne. En fait, ça, c'est une œuvre que j'ai exposée au Bon Marché il y a quelques années de cela. C'était il y a 2000 ans, un animal mystique, en tout cas dans la mythologie chinoise, donc qui est représenté ici. Et puis il y a d'autres messages qui sont combinés dans cette œuvre. Ça ressemble un petit peu à un arbre de Noël, cette couverture, faut dire.
Mille ans de joie et de peine, le titre de votre livre, provient donc d'un poème de votre père. Et ce poème se termine ainsi. Homme qui vivait, profitait de la vie, n'espérait pas que la terre en gardera le souvenir. Est-ce aussi pour que la terre garde le souvenir de votre père que vous avez écrit ce livre ? Ai Weiwei.
Vous savez, il était un petit peu difficile en une seule phrase d'exprimer mes sentiments sur mon père. Mais ce qui m'étonne à chaque fois, j'ai découvert son histoire, j'ai vu qu'il avait parcouru, traversé tant d'épreuves, de difficultés insurmontables. Et à la fin de sa vie, il a dit, menez une vie heureuse et ne comptez pas sur la terre pour se souvenir de votre existence. C'est quand même une réflexion un petit peu triste, un peu démoralisante, mais en même temps très réaliste. Je me rends bien compte moi-même que nous vivons dans ce monde où la vie est si précieuse, si fragile, et en même temps négligée. Pas simplement par les pouvoirs, par la force politique, mais par nous-mêmes. Bien souvent, nous oublions le sens de la vie, nous ne savons même pas ce qu'est le bonheur. Alors, je me dis que ce serait peut-être un bon titre pour le livre, parce qu'il en dit plus que ce que le livre lui-même me raconte. Quelquefois, vous y retrouverez une contradiction par rapport à ce que raconte le livre.
C'est un livre dans lequel il est beaucoup question de votre père et c'est aussi un livre dédié à votre fils. Est-ce que c'est donc un livre sur l'héritage, un livre de transmission ?
C'est pas tellement l'héritage dont il est question, c'est plutôt l'idée de raconter de manière sincère ce qui s'est passé. C'est une démarche de responsabilité. Nous n'avons qu'une vie. Il y avait la génération précédente. La suivante risque de ne pas comprendre la précédente. Et bien souvent, j'interroge les enfants sur leurs parents, sur ce qui leur est arrivé, ce qui est arrivé à leurs parents ou à leurs grands-parents. Et bien souvent, les enfants ou petits-enfants ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils disent, je ne sais pas, j'aurais jamais posé la question. Ils ne savent pas. ils ne savent pas. Et je me dis que, ma foi, c'est vraiment problématique s'il n'y a pas cette mémoire-là. Dans les pays, dans les États autoritaires, eh bien, l'autoritaire délibérément efface votre mémoire ou altère les faits, de sorte qu'on ne sait effectivement pas ce qui s'est passé. Mais si les parents eux-mêmes ne racontent pas à leurs enfants ce qui s'est passé, parce que c'est dangereux, parce que bien souvent, dire la vérité, c'est dangereux dans un pays autoritaire, on peut le comprendre. Mais dans le monde occidental, bah, vous avez la même situation. Alors qu'il n'y a pas ce même danger, vous avez des gens qui... finalement, ne racontent pas leur passé à leurs enfants et l'histoire disparaît. Alors évidemment, on peut apprendre l'histoire dans les livres d'histoire, et pour ce qui est de l'histoire personnelle, bah, évidemment, un livre d'histoire ne vous apprendra rien. Et c'est la raison pour laquelle je sens, j'ai pris une certaine responsabilité. Je pense que je dois dire de manière honnête ce qui s'est passé dans ma vie en Chine et à l'attention des générations futures pour qu'elles aient au moins une référence.
Ai Weiwei, pour votre père, le Paris des années 20 dans lequel il a vécu était un carrefour de culture et de création, de philosophie et d'art. 100 ans plus tard, nous sommes exactement un siècle après, vous voici à Paris à votre tour. Est-ce que cette ville représente la même chose pour vous aujourd'hui qu'il y a 100 ans pour votre père ?
It's funny, whenever
c'est drôle, quand je me promène dans les rues de Paris ou en taxi, j'essaie à chaque fois de m'imaginer ce que ça avait pu être lorsque mon père y était. Est-ce que... les rues, les avenues étaient aussi larges qu'elles le sont aujourd'hui. Est-ce que j'ai l'impression que même aujourd'hui, enfin, je trouve que les avenues parisiennes, les places sont extrêmement larges. Mais à l'époque, est-ce qu'elles étaient déjà comme ça? Est-ce que l'éclairage des rues était pareil? Est-ce que, je ne sais pas, l'eau de la Seine était aussi verte, ou est-ce qu'elle était plus limpide, je ne sais pas. Quand je pense au souvenir de mon père, je reconstitue une image de Paris sous des couleurs un petit peu différentes, peut-être plus sombres, mais avec peut-être plus de profondeur aussi. Et puis, évidemment, tout était plus lent. Les sons étaient sans doute différents. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de choses ont été perdues depuis cette époque. Les choses ont été un peu délavées par le temps. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment comprendre ce que mon père a pu vivre, ce qu'il a décrit. Il a parlé de Paris, mais il a parlé également de Marseille dans ses souvenirs. Mais le Marseille de l'époque était très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Je ne sais pas sa façon d'être.
Vous établissez un parallèle à Ai Weiwei entre votre rapport avec votre père et le rapport que vous avez avec votre fils Ai Lao, auquel vous demandez aujourd'hui de vous poser des questions. N'importe quelle question, dites-vous, parce que l'important, c'est de pouvoir communiquer avec ses parents.
I think... Until I was in detention,
oui, vous savez, jusqu'à ce que je me retrouve moi-même en prison, je me suis rendu compte que ma plus grande tristesse, c'est de ne pas avoir posé à mon père les questions qui comptaient, les questions importantes, et je n'aurais plus la possibilité de le faire puisqu'il est... Il est mort bien avant que je me retrouve en prison. Et ces questions resteront sans réponse dans mon cœur. Et je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Pourquoi n'ai-je pas eu le courage, la curiosité de lui poser ces questions? C'était des questions qui auraient été très utiles de lui poser les questions. Il m'aurait répondu de manière très franche et je serais maintenant d'une position très différente pour comprendre la situation.
L'idée de ce livre vous est venue pendant les 80 jours de détention que vous avez subis en Chine en 2011, des mois durant lesquels vous avez été soumis à des interrogatoires destinés à réécrire l'histoire, en tout cas la vôtre. Est-ce que écrire aujourd'hui, c'est un moyen de se réapproprier les événements ?
Writing... It's different from not writing.
Écrire, c'est quand même quelque chose de très différent des autres formes d'art. L'écriture, je ne sais pas, c'est un petit peu comme des feuilles qui flottent au vent, alors que lorsqu'on écrit, on essaye d'avoir la maîtrise de son destin. Ne serait-ce que sur quelques pas, vous avez la maîtrise de votre destin. En tout cas, on a l'illusion de maîtriser les événements, parce que chaque phrase, chaque mot du vocabulaire doit être structuré par votre propre grammaire, par votre propre volonté. volonté. Donc le fait d'écrire est une démarche assez volontariste qui vous donne l'impression, enfin en tout cas c'est un geste important, qui vous donne l'impression de maîtriser un petit peu les choses. Ça permet à chacun de se comprendre. Vous savez, on a l'impression, on croit se comprendre soi-même, mais non, il faut d'abord écrire pour se comprendre. Et ensuite, il faut avoir le courage de se regarder en face ce qu'on a écrit et porter un jugement sur ce qu'on a et se dire, et sur ce qu'on a écrit, est-ce que ce que je vois, est-ce que les lignes que j'écris correspondent à ce que je suis vraiment? Est-ce que c'est le reflet de ma propre vie? Est-ce que c'est moi? C'est une question souvent très difficile.
Nous sommes en train de parler avec Ai Weiwei de son livre de mémoire « Mille ans de joie et de peine » édité chez Buchet-Chastel. Un livre absolument incroyable, comme vous pouvez l'imaginer. On reprend cette conversation juste après les Pop News.
Et voici une série dont l'ambition et l'intrigue résident dans le titre. Drôle, une série signée Fanny Herrero, à qui l'on doit 10%, les aventures et mésaventures de Nézir, Aïssatou, Bling, Apolline, quatre humoristes différents qui ont le même rêve, faire rire les autres.
Bienvenue drôle. Je fais du stand-up.
Du coup, t'es drôle, quoi.
J'essaye, quoi.
Après, je me dis que j'aimerais essayer autre chose.
Tu veux faire du stand-up?
Je sais plus qui tu es.
Et du coup, je voulais te parler d'un nouveau sujet. Je voulais t'en parler. Enfin, c'est un nouveau sketch que j'ai testé ce soir.
On n'en parle pas du plaisir prostatique. Moi, je comprends pas pourquoi on a autant attendu. Hein. On est quand même parti en Thaïlande avant d'aller dans son cul.
C'est ton club ici. Donc tu peux passer ce soir.
Il faut laisser la place aux autres.
Et drôle, ça arrive le 18 mars sur Netflix.
Dans le monde d'hier, de Diastème, Léa Drucker est Elisabeth de Rincy, présidente de la République, qui a choisi de se retirer de la vie politique. Mais voilà, son secrétaire général, Franck L'Herbier, Denis Podalydès, doit l'informer d'une fâcheuse nouvelle.
Pas de bonne nouvelle, madame la présidente. Je viens d'avoir communication de la dernière vague de sondage qui sera publiée demain. C'est pas bon du tout.
C'est-à-dire ?
Willem est en train de creuser l'écart, Elisabeth.
Gaucher, nous connaissons, mais bon, il vient de notre camp, nous devons... Ce pays restera dirigé par un républicain et c'est le plus important.
Un site d'information russe va lâcher une bombe au lendemain du premier tour. Gaucher est un homme mort et s'est fait piéger comme un bleu. Willem va remporter l'élection. Qui aurait intérêt à faire gagner un candidat de l'extrême droite en France? Il ne nous reste que 3 jours. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Par tous les moyens nécessaires, Elisabeth. Tu te souviens?
T'es devenue dingue.
Assieds-toi, écoute-moi.
3 jours pour éviter que l'extrême droite n'arrive au pouvoir. Le monde d'hier, ce sera le 30 mars dans les cinémas.
Et vous prendrez bien un peu de punk rock britannique, ça tombe bien, j'en ai. Une nouvelle obsession baptisée Chubby and the Gang et leur titre Who Loves Ya, coup d'état. Via coup d'état, retrouvé sur l'excellente EP de Chubby and the Gang, Labor of Love.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
Retour à Pop, pop, pop avec Ai Weiwei, que nous recevons aujourd'hui pour parler de son livre de mémoire, Mille ans de joie et de peine, chez Buchet-Chastel. Votre travail porte beaucoup sur le souvenir, sur la mémoire, sur les traces. Est-ce que pour vous, affirmer une mémoire qui ne serait pas manipulée par le pouvoir, c'est ça la vraie résistance à l'oppression?
I think there's a difficult moment in our life.
Savez, il y a un moment difficile dans nos existences où on se rend compte qu'il n'y a pas de vérité et que tous les faits ont été soit masqués ou déformés ou ils ne vous montrent qu'une partie de la vérité. En tout cas, les faits vous sont présentés sous la forme qui arrange celui qui la détient. Donc, le savoir, c'est tout ce que vous avez. C'est la seule chose qui vous reste pour lutter contre cela. Il faut s'accrocher à son propre savoir. Mais il faut aussi se demander, est-ce que c'est vraiment ainsi que les choses se sont passées? Quel est le sens des événements pour moi? Et si on n'a pas ces mémoires, il ne nous reste rien. Quelqu'un, le voyageur sans bagage, un homme sans passé, n'a pas de futur non plus. Si on n'a pas de passé, pourquoi a-t-on besoin d'un avenir non plus?
Quand on parle de vous, Ai Weiwei, on parle d'activiste artiste, d'artiste activiste. Je ne suis pas sûre que vous validiez les deux termes. Toujours est-il que, est-ce que pour vous, l'art n'est art que lorsqu'il est politique?
Early philosophers said,
vous savez, les premiers philosophes ont dit que tous les hommes sont créés comme des animaux politiques parce qu'ils ne sont pas à considérer comme des individus, mais comme des animaux communicants. Et nous ne montrons que ce que nous voulons montrer aux autres afin de survivre. Alors, qu'il s'agisse d'opinion ou quoi que ce soit, la vie n'est jamais abstraite. C'est-à-dire que même la recherche scientifique s'appuie sur une réalité concrète. Elle a un but, il y a un but à appliquer la recherche fondamentale à la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'études complètement pures, abstraites, éthérées, détachées de la réalité concrète. Eh bien, nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes des êtres pragmatiques. Et il me semble que les œuvres d'art que je fais, si on se dit que l'art n'est pas politique, rien que le fait de dire que l'art n'est pas politique est en soi une affirmation politique. Ça veut dire que on s'intéresse peu à la condition humaine, aux luttes humaines, aux ressentis de ses parents, de ses enfants. Enfin bon, dire que l'art politique c'est en soi un geste politique. En fait, l'art est nécessairement doit être partagé, sinon on affirme qu'on est égoïste si on dit qu'on n'est pas politique.
Ai Weiwei, malgré les épreuves que vous avez traversées, enfant, vous dites vous-même que vous avez mis un moment à devenir un artiste contestataire. Comment est-ce que vous l'expliquez, ça?
At the beginning, I studied art only because I wanted to escape political situation.
Au début, j'ai étudié l'art pour échapper, pour fuir la situation politique. La Chine étant un pays éminemment politique avec ses règles, je ne voulais pas me plier à toutes ces règles et avaler toutes les conneries qu'on nous faisait gober tous les jours. Donc je m'enfuyais dans le dessin, la couleur, la peinture. Mais plus tard, je me suis rendu compte que je suis devenu probablement le personnage le plus politique de la scène artistique parce que je me suis servi de l'art pour exposer mes points de vue et je me suis toujours dit que nos émotions, nos sentiments, finalement, ce sont eux qui nous permettent de protéger l'humanité. Et évidemment, c'est une menace pour les États autoritaires parce qu'ils sont incapables d'imaginer autre chose que ce qu'ils sont. Ils n'ont pas la capacité de la passion, de la curiosité. Ils en sont complètement incapable. Et donc, face à cela, l'art, l'imagination, c'est une force inconnue. Et c'est ce qui m'a amené à prendre, en tout cas, conscience de l'utilité de l'art pour exprimer mes pensées et pour défendre l'humanité, la liberté d'expression.
Le magazine de design Wallpaper a écrit dans un profil qu'il vous consacre, je cite, « Découvrir l'art d'Ai Weiwei, c'est comme mordre dans un scorpion, ça pique, c'est tranchant et c'est parfois difficile à avaler et c'est ainsi que ça devrait être. » Est-ce effectivement, selon vous, ainsi que l'art devrait être?
Well, it's, art should be
vous savez,
unpredictable.
La qualité principale de l'art, ça doit être d'être imprévisible. Il ne faut pas dicter ce à quoi doit ressembler l'art, parce qu'une fois qu'on dicte la forme de l'art, ben l'art devient autre chose. L'art doit changer et change toujours de forme. C'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas prédire, qu'on ne peut pas dicter. Mais pour autant, le sens de la vie nous échappe. On ne peut pas le comprendre. On ne sait pas pourquoi on a été créé. On ne sait pas ce qu'est notre mission sur Terre. Pourquoi il nous faut disparaître. L'art n'est pas là pour vous proposer un confort, une esthétique agréable. Mais l'art fonctionne comme lorsque vous mordiez quelque chose de douloureux. Et alors, évidemment, l'art nous permet d'échapper à la douleur de la réalité, mais disons que c'est une façon de découvrir un autre goût. Alors, bien souvent, la réalité qu'on éprouve est assez fausse.
Mais par ailleurs, dans votre livre, Ai Weiwei, vous écrivez que plus les œuvres sont vraies, plus elles sont en phase avec le progressisme politique de leur époque. C'est assez fascinant parce que cela veut dire qu'on peut mesurer la vérité d'une œuvre. Il existe des critères de vérité de l'art.
Alors, la vérité de l'art, disons qu'il y a la démarche, l'effort d'atteindre la vérité. Je crois qu'on peut mesurer cet effort. Alors, on n'atteindra peut-être pas la vérité, mais l'effort est là. C'est une... Alors, mais s'il n'y a pas cet effort, l'art est complètement corrompu. C'est comme, je ne sais pas, quelqu'un qui ne veut pas se noyer, mais enfin, si on ne se bat pas, ben on va se noyer.
Vous dites, j'ai découvert très jeune à quel point l'humanité pouvait tomber très bas. Est-ce que vous replonger dans ces souvenirs vous a permis de mesurer votre résilience ?
Mes premières années, lorsque j'étais avec mon père en exil dans un coin désert du Gobi au fin fond du nord de la Chine, nous vivions de manière primitive, sans électricité, sans rien, sans lumière, sans aucun confort, enfin, sans rien pratiquement. Nous survivions au jour le jour avec des moyens extrêmement limités. Alors, et pourtant, c'était peut-être pas ça le plus dur. Mon père se faisait insulter tous les jours, il était isolé dans l'isolement. Moi, j'étais quoi, le fils d'un contre-révolutionnaire, donc moi-même, j'étais séparé des autres. Alors, on voit que dans ces conditions, on voit que l'humanité peut tomber très bas dans sa façon dans cette forme de discrimination. On voit que c'est le lavage de cerveau qui amène les gens à vous détester, à vous haïr sans aucune raison. Et alors effectivement, on voit que l'humanité peut tomber très bas. Ça, je m'en suis rendu compte très tôt. Et évidemment, c'est là que je me suis rendu compte qu'il est très important d'être soi-même en tant qu'individu pour pouvoir se protéger ce qui nous vient à l'esprit, nos pensées les plus intimes, plutôt que de faire partie des autres, d'être fondu dans la masse. Et ça me vient de mes premières expériences. Mais même en venant ici en Europe, j'ai un petit peu éprouvé la même chose. C'est-à-dire que, j'étais là sur le rivage, je voyais les réfugiés qui arrivaient, les enfants qui pleuraient, des migrants qui survivaient à peine dans leurs embarcations de fortune, sans aucun espoir, sans aucune compassion, sans aucune empathie de la part des gens qui les voyaient affamés, débarqués sur nos plages, gelés, personne n'était là pour les aider. Et ici, en Europe, je parle bien de l'Europe et pas du fin fond de la Chine. Et on oublie ça, mais il y a quelques dizaines d'années, nous étions tous des réfugiés. Il y avait la guerre il n'y a pas si longtemps, où il y avait plein de réfugiés. Mais aujourd'hui, tout le monde a tout oublié.
Nous parlons en ce moment avec Ai Weiwei de 1000 ans de joie et de peine, son autobiographie qui vient de paraître chez Buchet Chastel. Un livre important, plus qu'important, vous l'aurez compris en écoutant cette émission. Ai Weiwei, lorsqu'on vous a demandé, comme à chacun de nos invités, de dresser une pop-liste de vos films, séries, livres ou chansons préférées, vous nous avez gentiment répondu que vous n'avez rien de tel, en ajoutant « I'm a really boring person, je suis vraiment un type très, très ennuyeux ». Ce qui n'est pas le cas. En dehors du fait que vous venez de passer une demi-heure à nous prouver tout le contraire, nous avons décidé de passer outre votre déclaration et de vous proposer des réponses à nos questions. Ce qui suit n'est donc pas une pop-liste d'Ai Weiwei, mais notre pop-list imaginaire d'Ai Weiwei. Vous nous direz ce que vous en pensez. Il sera question de Simon et Garfunkel, d'Andy Warhol, d'Eisenstein, de Star Trek. Mais avant cela, écoutons ensemble Michael Kiwanuka qui nous promet une beautiful life.
My window. What a fool I was.
Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon...
New York, looking down on Central Park.
Ah ouais, ouais, si je vous propose cet extrait de A Heart in New York de Simon & Garfunkel pour illustrer la pop culture, c'est évidemment parce que vous avez vécu à New York pendant plus de 10 ans et que vous parlez de la philosophie de New York. Qu'est-ce que c'est ça, la philosophie de New York ?
Well, I think it's about humanity.
Eh bien, it's about the c'est struggle. Une philosophie qui s'intéresse à l'humanité, à la lutte de l'homme qui cherche désespérément quelque chose qui sort de l'ordinaire. La philosophie de New York, elle parle de la folie humaine.
Bien. Et bien, pour cette fameuse poplist dont je parlais à l'instant, nous vous proposons donc un livre, un film et une série et une chanson en espérant qu'ils vous plairont. Le livre que nous vous proposons, Ai Weiwei, ce serait La philosophie d'Andy Warhol, From A to B and Back Again, parce que vous en parlez dans votre propre livre et parce que Charline, quelle est donc cette philosophie ?
Point de vue sur l'art et la société, avec ce qu'il faut d'irrévérent en se remise en question des valeurs sacrées de la civilisation américaine.
Ah ouais, ouais, ça vous convient comme choix de livre ? Dites que ça vous fait penser à Twitter, ces phrases courtes.
I love Andy Warhol's
j'adore l'attitude d'Andy Warhol, la façon dont il s'exprime, qui reflète de manière très directe la réalité d'un homme. Vous savez, il était très timide dans la vie, Andy Warhol, mais il n'a jamais fait secret de sa sensibilité et de sa façon très simple de comprendre les choses et qui nous dit toujours une certaine vérité. C'est pour ça que j'aime beaucoup.
Passons à un film maintenant, Ai Weiwei. Nous nous sommes permis d'imaginer qu'il ne vous déplairait pas de nous parler de ceci. Ceci, c'est Octobre, 10 jours qui ébranlèrent le monde, le grand classique d'Eisenstein. Charline, est-ce que vous pouvez nous rappeler le propos, s'il vous plaît ?
Empire russe, 1917, une foule de manifestants en colère détruit la statue d'Alexandre III. La bourgeoisie, l'armée et l'église se réjouissent de l'instauration d'un gouvernement provisoire qui, par solidarité avec les alliés, décide de continuer la guerre contre l'Allemagne. Mais sur le front, soldats russes et allemands laissent tomber les armes et fraternisent.
Ai Weiwei, il y a une image de ce film qui vous a inspiré, dites-vous, c'est celle d'un lustre. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer ça ?
If I still can remember,
j'essaie de me rappeler, effectivement.
Of course, movies,
ce film Octobre d'Eisenstein, je l'ai souvent vu, je l'ai vu d'ailleurs du côté spectateur, mais souvent dans le village, on nous projetait le film sur un écran, il fallait le voir de l'autre côté parce que c'était projeté à l'envers. Il fallait grimper sur l'arbre pour voir le film projeté comme ça en plein air sur un simple drap tendu. Sur les branches d'un arbre. Donc je l'ai vu des deux côtés, pour ainsi dire, Octobre. Et je crois qu'il y a une scène dans laquelle on voit la marine russe qui se révoltait, qui tirait ses canons contre l'autorité. Et la scène suivante, vous avez des cristaux du chandelier qui étaient secoués. C'était une image symbolique, c'est l'image des choses qui allaient bouger dans le pays. Ça m'a beaucoup frappé quand j'étais gamin.
Passons à une vraie difficulté. Nous avons essayé de choisir pour vous une série, sachant que vous n'avez pas regardé de série depuis une quarantaine d'années. Alors, dans ce cas-là, pourquoi pas celle-ci ?
Espace. Frontière de l'infini. vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission ? Explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, reculer l'impossible.
Alors, il s'agit évidemment du générique de Star Trek dans sa version française, la première série évidemment. Charline, dites-nous pourquoi cette série-là est devenue culte.
Peut-être bien parce que dans ce futur-là, l'humanité a éradiqué la maladie, l'injustice, le racisme, la pauvreté et l'intolérance.
Mm-hmm. Ah ouais, ouais, Star Trek, ça pourrait être votre série préférée.
Well, honestly, I never really watched.
J'ai jamais regardé cette série, mais j'ai vu le film 2001, l'Odyssée de l'espace, le film de Stanley Kubrick. J'ai beaucoup aimé ce film. Alors, c'est peut-être pas tout à fait la même chose, mais bon, je pense que tous les Américains ont regardé Star Trek, donc je peux comprendre.
Ah oui, oui, notre fierté nationale toujours blessée nous oblige à vous proposer d'écouter et d'aimer la javanaise de Serge Gainsbourg, en espérant qu'elle vous plaise.
J'avoue, j'en ai bavé, pas vous. Mon amour, avant d'avoir du vent de vous, mon amour, ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain de vous, à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise.
Ah, Serge Gainsbourg, la javanaise. Voilà, une belle fin d'émission. Merci infiniment, Ai Weiwei. Je rappelle que vous venez nous présenter votre livre « Mille ans de joie et de peine ». C'est paru le 2 février chez Buchet Chastel. Et c'est un livre que tout le monde devrait lire. Merci de nous avoir rendu visite.
Thank you so much. It's so nice being with
Merci
you.
À vous. C'est un vrai plaisir d'être avec vous.
Merci Charline.
Merci à vous.
À demain et merci à toute l'équipe de Pop 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 et à Florian Dorimini qui était à la technique aujourd'hui. Demain dans Pop Pop Pop, Philippe Etchebest vient nous parler de la nouvelle saison de Top Chef et de son amour de la musique. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets 3615 Pop Pop Pop. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Charline Vanhoenacker et toute sa folle équipe pour Par Jupiter.